Interview.
1 interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour et je reçois Jabour Douahi qui est avec nous dans le cadre du Festival Est-Ouest qui reçoit cette année le Liban. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont des romans.
Surtout rien que des romans.
Rien que des romans. Et bien écoutez, on va pouvoir quand même parler de l'âme de la forêt, c'est ça ?
C'est un conte pour enfants, mais c'est le seul qui n'est pas un roman. Et puis les autres, c'est des romans.
Tous les autres, c'est des romans, oui. Qui se passent principalement au Liban, mais pas seulement. Avec toujours, enfin j'ai l'impression dans ce que j'ai lu, avec toile de fond, entre... avec les différentes communautés qui cohabitent au Liban.
Oui, quoi, le cadre libanais qui s'impose, un bariolage de communautaires, confessionnels, un petit pays mais où sont censés cohabiter administrativement, politiquement, 17 communautés. 17 communautés chrétiennes et musulmanes, qui, se créent entre eux des tensions, puis des résolutions, et c'est une recherche permanente de l'équilibre. Depuis l'instauration du Liban, qu'on a appelé, je ne sais pas pourquoi, le Grand Liban, depuis 100 ans, puis devenu le Liban tout court, ça a toujours été une question de communauté, le Liban. C'est ça. Ça peut être une... bénédiction comme une malédiction, ça peut être un exemple à suivre pour la coexistence et ça peut être aussi un repoussoir à cause des conflits qui peuvent éclater entre ces composantes et que le sang coule pour des questions identitaires dont on mesure l'absurdité après.
Vous avez participé à une table ronde, je vois, sur la société civile et les libertés publiques.
On a parlé de littérature. Du Liban, de l'écriture, du genre romanesque, de la poésie, de tout, du communautarisme là dont on est en train de citer. Mais ce sont des débats très enrichissants, très mûrs. Je trouve que nous, les écrivains libanais venus jusqu'à dit, on a eu quand même aussi l'occasion de nous mettre à distance, de mettre nos sujets, nos thèmes, notre pays à distance, de réfléchir de loin un peu avec un auditoire que nous convions à connaître notre pays et qui peut poser des questions avec un regard neuf sur un sujet qu'on croit nous-mêmes quand même connaître, mais qui peut bouleverser aussi notre perception, nous amener à mieux voir, voilà.
Et vous avez fait des rencontres comme ça durant ce festival, des rencontres qui vous donnent un autre point de vue, qui détournent
un petit
peu.
Bien sûr, il y a des intervenants qui vous poussent à réfléchir autrement, à présenter les choses d'une certaine manière. Et hier, j'ai été avec une collègue à Bourg-les-Valences, et là il y a eu vraiment un débat de fond autour de tout cela.
C'était Anna Jaber.
Anna Jaber, oui, sociologue. Et puis ce matin, on a parlé de en quoi la littérature, en quoi le roman peut changer quelque chose, écrire. Et voilà, il y a eu aussi un débat très sérieux entre les messages indirects que font passer les livres et surtout les romans, et aussi peut-être l'impuissance de l'écrit à changer le monde. Bon, mais là, c'était un véritable débat avec des idées sérieuses.
C'était en présence de qui ce débat?
C'était avec Hayam Yared et une spécialiste de la littérature pour enfants dans le monde arabe, Mathilde Chèvre.
Est-ce que justement, vu que vous avez eu un débat de fond ce matin intense, est-ce que vous pensez que la mission finalement des romanciers est aussi de faire évoluer les consciences par exemple ou...
Peut-être que certains romanciers croient pouvoir faire évoluer les consciences. Je ne sais pas à quel moment ils pensent à ça, mais personnellement, j'écris pour le plaisir. Pour me faire plaisir et pour faire plaisir à ceux qui pourraient lire, dont surtout mes amis, dont je peux contrôler la réaction, tandis qu'un lecteur éloigné, bon, je ne sais pas ce qu'il peut en penser. À travers ce plaisir de l'écrit et ce désir de faire plaisir au lecteur, se passe mon écriture dans une construction d'un monde de fiction à travers quand même un réel. Un réel qui est remis en fiction tout le temps dans la tradition française, dans la tradition flaubertienne, dans la tradition des grands romanciers du 19e, du 20e siècle. Un cadre que nous connaissons bien, un espace familier que nous transcendons par l'écriture du roman, par la confection d'un récit. En rendant des gens ordinaires, des gens mythologiques, des personnages. Ben voilà, ça, c'est cet artisanat, ce tissage du monde qui fait toute la passion de l'écriture et du roman.
Comme vous le dites, c'est ancré dans une certaine réalité, même si c'est une fiction. Du coup, vous explorez quand même des problèmes de fond, hein, comme on le disait en introduction, le communautarisme, les conflits identitaires, etc. Et donc forcément, vous devez éveiller la réflexion chez les gens qui vous lisent.
Oui,
pas seulement le plaisir.
J'ai rien contre le fait que les gens réfléchissent à la lecture de mon livre à des sujets graves. Mais à l'origine, ce n'est pas mon intention, mais du temps où Je fais le cadre de mes histoires dans un réel vécu contemporain ou moderne. Décidément, ces aspects sociologiques, politiques vont surgir dans une écriture romanesque et provoquer un sens. On peut pas échapper.
Oui. Enfin, on espère en tout cas que les gens y échappent pas quand ils
lisent.
Oui,
on peut pas échapper à la production d'un sens, surtout quand on écrit sur un sujet réel. Réaliste.
On peut parler un petit peu de votre livre, Le quartier américain. Pour moi, c'est ce qui symbolise. Enfin, vraiment, on a une base qui est hyper forte sur ce truc du communautarisme avec ces deux enfants. Ça, vous l'avez forcément écrit en. Enfin, vous racontez une histoire, effectivement, mais c'est lourd de sens.
Oui, quand on choisit un espace chargé de possibilités comme un quartier de misère. À population islamique, musulmane, avec quelques activistes dans le coin, on s'attend à ce que surgisse quand même le personnage du djihadiste quelque part, un terroir pour la radicalisation. Et à partir de là, que faire de cette problématique qui nous rattrape tous? Non seulement le romancier, mais tout le monde, que ce soit au Moyen-Orient ou même en Europe, on en est amené à réfléchir, à décrire, à raconter comment se fabrique un garçon qui accepte de se faire envoyer, se faire exploser dans un bus dans le sud de Bagdad, c'est-à-dire à quelques milliers de kilomètres de chez lui. Des gens qu'il n'a jamais vus, qu'il ne connaît jamais. Voilà, c'est cette aliénation que j'essaie de définir indirectement dans mon roman. Voilà. Que mon roman, à la lecture, semble quand même définir.
Ce genre d'aliénation, comme vous dites, là, vous l'avez mis dans un contexte particulier, effectivement, c'est des choses qu'on voit dans tous les pays du monde, en fait, des gens qui se sentent concernés par une cause qui, en fait, c'est pas que ça les concerne pas directement, c'est qu'on se demande comment ils peuvent arriver à se sentir vraiment inclus là-dedans et comment l'esprit d'un enfant comme ça peut trouver du sens à ce genre de choses.
C'est-à-dire que moi, je décris mon personnage en deux phases. La première phase, l'accumulation des causes de la révolte, des griefs, la misère, la famille déconstruite, la maladie du jeune frère, toute la pauvreté, le chômage. Les maladies autour, tout ça tombe sur la tête de ce jeune homme, mais aussi il tombe entre les mains de prédicateurs ou d'activistes radicaux qui créent une rupture chez lui entre les causes de sa mobilisation et l'acte qu'il doit faire pour compenser cela, ou pour venger cela, ou pour un acte tellement éloigné des causes premières qu'on se demande comment s'opère cette histoire-là. Et c'est partout la même chose, comme vous le remarquez.
C'est le cas dans tous les cas, dans beaucoup de cas de criminalité, de délinquance des adolescents, en fait. Un conflit qui est déplacé avec
Oui, tout à fait. C'est ce que j'appelle l'aliénation. Ouais. C'est-à-dire, départ dans une autre direction. Et ben voilà, c'est la ville que j'ai décrite, que je connais bien, peut-être n'est pas un grand terreau de djihadistes, mais quand même, elle présente un espace où se conjugue l'islam et la misère, et peut-être, toutes les possibilités sont là. Et voilà, j'ai fait un roman quand même où l'humain finit par l'emporter, où le garçon renonce. Parce que s'il ne renonçait pas, je ne l'aurais pas envoyé. Je ne vais pas écrire le roman d'un djihadiste qui réussit, dans le sens qu'il réussit à se faire tuer. Non, le renoncement est essentiel.
Oui, vous avez quand même cette envie de fin heureuse.
Oui.
Même si la fin n'est
pas toujours de fin heureuse dans mes livres, mais celui-là, j'ai tenu à une fin heureuse, une lucarne d'espoir, parce que avec ce qu'on est là, la référence au réel ne peut être que lourde de drame. Mais j'ai voulu que le roman soit autrement.
Est-ce que je peux vous entraîner sur une pente qui n'est pas de l'ordre de vos romans complètement, ou est-ce que ça vous ennuie ?
Allez-y.
Oui, parce que du coup, le communautarisme, ça existe dans plein de pays, multiconfessionnels comme le Liban ou pas. On le voit même, nous, en France, où on est un pays où les églises et l'État sont séparés, mais où finalement, le communautarisme existe quand même, avec les dérives qu'on connaît de terrorisme, etc. Enfin, malgré tout, et dans tous les... Je ne parle pas d'une religion en particulier, hein, je parle de toutes les dérives. Vous pensez qu'il y a une solution à ça, à part l'éducation des gens, ou est-ce qu'il y a un modèle d'État qui peut répondre à ces questions ?
Si on veut parler de l'Europe, en comparaison par exemple avec les États-Unis ou l'Angleterre, le communautarisme est plus officialisé aux États-Unis qu'en France, où la laïcité est une tradition très ancienne. Qui peut devenir à un moment donné coercitive, produire des frictions avec ses appartenances nouvelles sur le territoire français, dans l'espace français, comme surtout cette montée de l'islamisme qui crée une fraternité, un esprit de collectivité chez un groupe de citoyens ou de résidents. Mais il y a un déséquilibre entre cette forme d'appartenance Et là où la société française est parvenue dans son système scolaire, dans son système politique, dans de tout ça, viennent des gens qui réclament la liberté de se comporter comme si c'était une manière de vie entière pour eux, totale. Et ça, ça commence à... Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Parce que les laisser, je ne sais pas, les laisser faire, ça va en faire une secte bien vivante, florissante, alors que le reste de la société, ça ne peut que créer des réactions du même genre.
Du coup, vous parlez plutôt des religions qui créent des, enfin, on va dire des extrémistes. Ouais, des,
il y a une seule religion actuellement qui est en fièvre, c'est l'islam. Pas parce que les autres ont fait leur tour.
Et alors pourquoi c'est le tour de l'islam là ?
Parce que, écoutez, moi je suis assez âgé pour vous dire qu'à un moment donné, avant la fin de l'Union soviétique, toutes les formes de protestation, de revendication sociale ou nationale ou territoriale prenaient, adoptaient le communisme, le maoïsme comme bannière, comme idéologie de libération ou idéologie d'émancipation sociale. Et deux ou trois décennies plus tard, il y a l'islam qui joue ce jeu, ce rôle. Mais ce que faisait le communisme, l'islam ne peut pas le faire, ou il peut le faire partiellement. Le communisme parlait à un ouvrier dans une région française, dans une usine, à n'importe qui, et même à ceux qui revendiquent leur indépendance aux Philippines ou en Afrique. Actuellement, l'islam ne peut pas être la religion des non-musulmans, excepté ces jeunes-là qui en 24 heures se font musulmans et se font sauter. Voilà, eh bien, l'islam joue ce rôle-là de levier de certaines revendications. Mais voilà, comme toute idéologie, il peut être nocif et porteur de violence. Et nous en sommes devant une situation actuelle où tout le monde se met au chevet de cette histoire et ne sait pas trop par où commencer.
Oui, parce que tout se mélange un peu là. Oui. L'islam agit un peu comme une solution magique. Enfin, les gens le prennent comme une solution magique qui répondrait aux problèmes de misère, en tout cas, et de besoin de révolte de plein de gens, en fait, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Comme tout problème magique, ça devient un cauchemar à la fin. Parce que ça n'aboutit nulle part. Ça ne résout rien.
Ça donne
l'impression d'être en contact avec une communauté qui vous répond, qui vous ressemble. Et malheureusement, ça peut être une secte violente et tyrannique.
Comment ça se termine, ça ? C'est une idéologie qui en remplace une autre ou
L'histoire est en marche et puis, je ne sais pas, on ne peut rien prévoir. Ce que nous constatons aujourd'hui dans cette zone moyen-orientale entre la Syrie et l'Irak, nul ne l'aurait prévu il y a 4 ans.
Et au Liban, comment ça se passe ? Là, concrètement, c'est vraiment une question de quelqu'un qui est loin du Liban, qui n'y a jamais été. Ce pluriconfessionnalisme, justement, il y a l'image d'Épinal, où toutes les communautés cohabitent dans un grand arc-en-ciel, c'est génial. Et puis bon, il y a la réalité, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours des gens qui veulent imposer à d'autres leur façon de voir les choses.
C'est toujours comme ça, le Liban est toujours une table un peu bancale, mais quand même qu'on réussit actuellement un peu à épargner... Tout autour, dans les pays voisins, avec l'afflux d'immigrés, l'afflux monstre d'immigrés syriens, sur 3 ou 4 millions de Libanais, il y a 1,5 million de Syriens. C'est difficile. Mais les communautés libanaises, en voyant cette apocalypse avoisinante, semble comme ça un peu pris de d'un désir de s'éloigner, de ne pas trop. Et actuellement, le Liban, bon, avance d'une manière ou d'une autre, malgré toutes les tares. Mais voilà, il fait bon encore y vivre actuellement, quoique juste à côté, c'est le bordel absolu. Ça fait 100 ans que le Liban a été institué sous la forme du Grand Liban, sous le nom du Grand Liban, et depuis, les communautés ne cessent de se diviser, de se réconcilier, de se diviser le gâteau, si on veut, ou les privilèges politiques, et puis de réajuster la distribution et de réajuster. Voilà, c'est l'histoire du Liban que vous invoquez là. Et je ne peux pas prédire comment ça va aller.
Ah non.
Dans le contexte où nous vivons, il n'y a pas apparemment une tendance à la sécularisation. Donc le Liban est condamné à rester un peu comme ça.
Il y a un mouvement ou pas de sécularisation ou...
Si même au Liban il y a un mouvement de sécularisation, le contexte régional ne peut qu'étouffer cette tendance. Parce que là, dans deux grands pays avoisinant la Syrie et l'Irak, qui étaient supposés être laïcs sous deux régimes militaires bassistes, voient sortir de la marmite toutes les appartenances identitaires archaïques, le chiisme, le sunnisme, les Kurdes, les chrétiens, les yazidis, tout ce que vous voulez. Et le Liban qui en souffrait déjà de cela, ben ne peut pas remonter maintenant la tendance. Au contraire. Mais il a un avantage, c'est qu'il est passé par là avant.
Comment ça se passe? Là, je vous pose une question qui est peut-être un peu personnelle. Je ne sais pas si vous êtes d'une confession quelconque, mais comment ça se passe d'être athée au Liban aujourd'hui? Puisque c'est multiconfessionnalisme, mais est-ce qu'on a des...
Ben, si on est athée, on se tait généralement.
D'accord.
Bon, la tendance antireligieuse n'est pas très forte. Elle peut être anticléricale, mais antireligieuse n'est pas très forte au Liban. Et puis, bon, voilà. Même si on n'est pas croyant, on n'a pas envie de le crier.
Parce que là, vous distinguez anticléricaux et anti-religieux, c'est effectivement pas la même chose. Mais du coup, il y a une tendance anticléricale, mais pas une anti-religieuse ou...
Voilà. Il peut
D'accord.
y avoir. Il y a beaucoup de tendances anticléricales. Mais c'est surtout quand les gens de religion se mêlent de politique. Alors, ils essuient plein de ripostes. Mais sur la croyance, sur l'islam, sur le catholicisme, eh bien là, les choses sont bien tempérées. Il n'y a pas un espace pour développer cette incroyance.
Ça peut arriver, on ne sait
Ça
jamais.
peut
Hein.
arriver un jour.
Merci beaucoup, Jabour Douahi, d'être venu dans le studio de Erdiwa parler de votre travail d'écrivain et de romancier.
Merci à vous.
Je vous en prie, c'était un plaisir. Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews
Un
sur
beau
le...
bled,
Ah oui, ça vous a
hein?
plu? Ouais, en
Faut
tout.
aimer, faut aimer.
Même
Ça me
si...
rappelle chez moi un peu.
Même s'il fait pas beau, ça marche quand même.
Et bien, quand on est venu, il faisait un peu plus beau. Et demain, il va faire beau.
D'accord.
Yallah. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le paysage, les montagnes, l'enclave. Oui. Ça donne des envies de rester, des fois, dans un pays comme celui-là. Et puis la population, les gens, les néo-ruraux qu'on dit qui viennent s'installer, ça c'est nouveau, ça c'est joli, ils apportent leur savoir, oui.
Leur énergie.
Leur énergie pour renouveler la campagne, ouais, c'est bien.
Et le festival Est-Ouest est plein de néo-ruraux et puis de ruraux. C'est un grand mélange.
Et puis de l'euro.
C'est pas mal. Et la gastronomie locale?
Oui, on a mangé ça et là, c'est bien.
D'accord.
Oui, c'est très bien.
Ok.
Très bon.
J'espère que c'était un plaisir. En tout cas, c'est pas tout à fait fini. Et pour les gens d'ici, j'espère qu'ils en ont profité comme il
Espérons.
faut. Oui. Eh ben, restez bien à l'écoute des ondes, on va dire, internationales de Erdiwa. Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews ainsi que celles du Festival Est-Ouest sur le site internet. Salut à tous. Interview. Okay, the bird.